On a dit hier que c'était une mitzvah de défendre un juif, de défendre
ouais,
une mitzvah.
Bien sûr.
Et par l'étude de la Torah, on fait justement, comment on le fait? Par l'étude de la Torah.
Ouais.
Maintenant, qui est-ce qui va à l'armée?
Ok, c'est vrai que je n'ai pas le temps de bien expliquer hier, je vais expliquer mieux. Donc, complément de hier. Dieu fait tout. C'est lui qui fait qu'on gagne la guerre, c'est lui qui envoie la refoua, c'est lui qui envoie la parnassa. Dès lors, on pourra se dire, ok, ben c'est lui qui fait la guerre, et ben, étudions la Torah, et puis ouvrons les frontières, et puis tout ira très bien. C'est lui qui envoie la parnassa, et ben, on va installer un hamac ici, et puis ça va tomber. Quelqu'un de malade, pourquoi il prend un médicament voir un médecin, se repérer ou quoi que ce soit, c'est bon Dieu qui nous guérit, terminé. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ce monde, qu'on appelle le monde en hébreu, Olam. Ça vient de racine, Aelem, Ne'elam, c'est quoi? Caché. Voilà, Dieu se cache. Dieu se cache. C'est pas un monde où Dieu est... Pourquoi on a libre arbitre? Si Dieu était clair, on le verrait partout, on n'aurait pas libre arbitre, on serait des anges, des robots. Tout le but du monde, c'est que nous puissions être. Être. Pour être, il faut que je décide. Que j'ai un libre arbitre. Si c'est pas moi qui décide, si Dieu est là, j'ai aucune décision à faire. C'est clair. C'est ça l'époque messianique. Hein. Quand l'époque messianique arrive, c'est un peu comme le jour de la mort. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le mal est liquidé, le corps pourri dans la tombe, l'âme monte en haut, elle voit Dieu, et c'est terminé. Quand Mashiach arrive, c'est à peu près la même chose. Le mal est liquidé, le corps va rester, mais il n'y aura plus de mal, il n'y aura que le bien, on verra Dieu très clairement, et on n'aura presque plus de libre arbitre. Il y aura, mais très très peu. Donc c'est pas une mort totale, mais c'est une mort presque à 99%. Continuons la parenthèse concernant le Mashiach. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on veut tellement que Mashiach vienne? Chafetz Chaim dit bien que nous, au niveau privé, on n'y gagne rien. Parce que c'est comme une mort. Alors pourquoi on peut tellement que Mashiach vienne au niveau du klal, au niveau de la collectivité, au niveau de Am Israël qui est en galoute, au niveau du Chilou Hashem, au niveau de la Shrina, ça veut dire quoi? Que le... C'est pas normal. Nous devons vouloir que Dieu se dévoile. Étant amoureux de Dieu, sachant qu'il est le maître du monde, nous voulons qu'enfin l'humanité entière reconnaisse sa royauté. Donc c'est quelque part... pour qu'il y ait du Kiddush Hashem que nous voulons Mashiach. Mais au niveau personnel, on n'a rien gagné là-dedans. Je ferme la parenthèse. Donc,
il y a un point de Kiddush Hashem de justement faire son service sans qu'il soit dévoilé.
Kiddush Hashem peut-être dans le ciel. Quand les anges voient que toi, dans ta petite chambre, tu bosses, tu souffres pour Dieu, oui. Mais dans le monde, ils te disent que t'es un fou. Les gens te disent que t'es un marbré. T'es à Wall Street, tu viens ici aller chier les choses au sel. Non mais... Dégage.
D'où le plus grand kiddush.
Hein?
C'est d'autant plus un kiddush Hachem.
Oui. C'est un petit kiddush Hachem.
Hachem, il a d'autant plus... Il a pas besoin de quelque chose, mais il apprécie d'autant plus...
Oui, mais c'est un petit kiddush Hachem. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'humanité entière voit clairement. Tout le monde, Sarkozy, machin, le...
Rien, parce que de toute façon il est complet, il a besoin de rien.
Lui gagne rien. Nous gagnons.
Il gagne un peu plus à ce que nous on trime dans le Olam caché que dans le Olam gagné.
Oui. Nous on gagne. Lui gagne rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous.
Et nous non plus, on ne gagne rien.
Ah non, lentement, qu'est-ce qu'on gagne? Nous maintenant, quand on travaille dans le monde caché, alors on est. C'est moi, dans l'obscurité. Je sais que Dieu existe, je crée la lumière. Donc je suis un grand créateur, il y a une grande amplitude d'être. Si une chose n'est pas claire, vous m'arrêtez, hein, parce que je parle de notions qui sont un peu connues à l'échiva des anciens. Maintenant, cette situation, elle est bien au niveau particulier, mais nous devons vouloir, étant amoureux de Dieu, c'est une histoire d'amour, d'accord? Quand ta fiancée, ta femme, tes parents sont éloignés, et tu l'écris des lettres, je te languis, je n'en peux plus, reviens. Il y a ici un dévoilement de ton amour qui est très très grand. N'est-ce pas? Mais toi, tu veux quand même qu'un beau jour, elle apparaisse. Je suis revenu. Ah, le jour que j'attendais tellement. On le veut ça. On le veut.
Mais on l'a déjà, on le voit.
Non! Non, tu vois très peu, tu t'entends un petit, hein, elle t'envoie une lettre, ton mot m'a fait très plaisir, je reviens bientôt. C'est tout, ouais. C'est de la gnognotte qu'on reçoit, une photo, une photo. Hein?
Dès qu'il y aura le dévoilement, il n'y aura plus tout ce travail.
Il n'y aura pas le travail.
Donc tu n'auras plus tout ce travail de Mouna, ce travail de Bitar.
Il n'y aura plus.
Et HM, il a tout intérêt à ce qu'on travaille notre Bitar, quand même, plus que le reste.
Oui, ok.
Il voit plus notre amour dans ce travail caché.
Oui, oui, je dis, quand tu vis avec tes parents, que tu aimes beaucoup, il y a une moins grande expression de l'amour que lorsque tu es loin et tu ressens à quel point il te manque. Ok. Mais la situation d'être loin, elle est anormale. Elle n'est pas souhaitable. Alors Dieu a dit, c'est 6000 ans. Voilà, je vous laisse maintenant 6000 ans pour me chercher, pour bosser, pour arriver, pour dans l'obscurité. Maintenant, à la fin, ok, là on arrête tout, on arrive au but. Le but, c'est quand même qu'on se réunisse. Dès qu'il y a réunion avec Dieu, le mal, le voilement de Dieu disparaît. Tant que nous sommes dans cette situation de voilement, je te réponds, hein. Tant que nous sommes dans cette situation de voilement, alors il n'est pas possible qu'à part dans des cas extrêmes, qu'on voit de façon claire la main de Dieu. Bien que c'est Dieu qui amène à Parnassa, bien que c'est Dieu qui fait la guerre, bien que c'est Dieu qui nous guérit, on doit jouer une comédie. On appelle ça Hishtadlut. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas faire des miracles trop ostensibles. En aucun cas. Donc, on doit jouer une comédie. C'est quoi ? C'est mettre un canal qui n'est qu'une comédie. Parce que Dieu peut amener sans le canal. Faisons nous donner le canal. Mais Dieu a dit, je veux que tu mettes un canal naturel. Moi, je ferai le miracle, mais ça passera naturellement. Tu prends un médicament, tu dis, Dieu sait très bien que ça ne sert à rien. C'est toi qui guéris, mais tellement dit qu'on joue la comédie. Alors, je joue la comédie. Voilà. Hop, j'avale. Et plus que cela, il faut la jouer bien, la comédie. T'as un comédien qui s'appelle Moshe Aboulafia. D'accord ? Maintenant, il est très beau gosse. On a demandé, tu vas jouer Zorro. Et lui, ou Tarzan, d'accord ? Et chaque jour, soir, il joue sa comédie. Tarzan, oh, Zorro, tac, 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 tac. Je l'ai connu Zorro, je ne sais pas si vous connaissez de moi. Vous avez connu Zorro ? Voilà, fantastique. Ok, Zorro. Maintenant, c'est un bon comédien. Sur scène, il est reconnu comme un des meilleurs comédiens au monde. Il vit son personnage à fond. Il ne peut pas rentrer à la maison et dire, chérie, donne-moi amène-moi un café, s'il te plaît. Là, il est maboule, le type. D'accord. Ça veut dire que même quand il joue sa comédie très bien, il sait très bien que c'est qu'une comédie. Là, le piège. Tu fais du business. Tac, ça marche. Ah, tiens, tu gagnes. On a l'impression que c'est nous qui faisons. On ne fait rien. Mais si on devait jouer la comédie bêtement, je dois faire un jour un appel par jour, machin, allez, n'importe quoi, je fais n'importe quoi, ça va marcher. Alors ça serait simple, c'est une comédie idiote et Dieu, donc je vois sous la comédie que Dieu est là. Non, Dieu veut que tu joues la comédie le mieux possible. Et que tu saches, c'est que de la comédie. Niet, voilà. Quand on est à un niveau de bitachon beaucoup plus haut, qu'on commence à s'habituer à la main de Dieu et qu'on sait que c'est lui vraiment, alors on peut se permettre de faire moins de comédie, mais c'est pas notre niveau.
C'est une question aussi d'aimer aussi.
D'aimer quoi? Dieu ou la comédie?
Non, d'aimer Dieu.
Oui, quand tu aimes ou tu aimes Dieu, tu vois sa main et tu comprends que tout vient de lui, tu vis ça vraiment. C'est pas facile, hein? Tu sais pas comment tu feras ta fin de mois et tous les mois tu... Ah, il y a un rabbin ici, il raconte souvent son histoire, c'était le premier rabbin du Badatz. Le Badatz, la communauté orthodoxe de Jérusalem, le Badatz, il s'appelait Rav Yosef Haim Zonenfeld. C'est un monsieur qui était né en Hongrie, orphelin, il venait en Israël assez jeune, et à Jérusalem ici. Et à l'époque, dans les Yeshivot, c'est pas comme aujourd'hui, messieurs, il fallait trouver, habiter chez l'habitant. Il n'y avait pas comme ça une Yeshiva avec des machins, tout ça, à manger, boire. Logis et blanchi. Il n'y avait pas ça. Il avait besoin pour cela de 3 pièces tous les jours. Et lui marchait dans la rue comme ça. Il cherchait. Et tous les jours, il avait 3 pièces. Pas 2, pas 4, pas 0 un jour, pas 6 après, pas 6 un jour et 0 après, tous les jours, 3 pièces. C'était lui, il savait. Donc, il a eu une vie d'éducation de la main de Dieu. Ben, c'était ça. Alors quand il était déjà beaucoup plus âgé, marié avec une famille, etc., il habitait à la vieille ville, à l'époque il n'y avait que la vieille ville, d'accord. Sa femme, donc on tape à la porte, toc toc toc, elle ouvre, qui c'est? Le voisin. Non, et le contraire, elle va chez le voisin, toc toc toc, le voisin ouvre, voit Madame Sonnenfeld, la rabbinite. Ça fait 20 ans qu'ils sont voisins, elle n'a jamais rien demandé, qu'est-ce que vous voulez, que vous avez quelque chose? Oui, est-ce que vous n'avez pas un morceau de pain? Il me manque un peu de pain à la maison, je vais emprunter un pain. Mais avec plaisir. Il ne comprend pas, ça fait 20 ans qu'on est voisins, jamais la rame, pas un œuf, pas un... C'est, on, ouais, c'est très très dur, hein, quand t'es... Enfin, je n'ai pas commencé en France, mais en Israël, c'est à chaque jour, il faut une liste, d'accord. On a pris un œuf ici, une tomate là, une bougie ici, un machin, on vit comme ça. Et chez eux, 20 ans, rien. Jamais Madame Sonnenfeld n'a demandé quoi que ce soit à ses voisins. Alors qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, chaque maison vivait très proche de l'autre, une petite lucarne comme ça, on pouvait voir ce qui se passait chez les voisins, chez les Sonnenfeld. Il attend que le rabbin rentre à la maison, il regarde le chien, il voit, il enlève son manteau, son chapeau, il se met à tête, il se met à manger le pain. Du coup, il voit sa femme qui rentre. C'est Ephraim, tu sais ce que tu es en train de manger maintenant? Ah oui, je mange du pain. Je mange le pain que j'ai dû emprunter du voisin. Parce qu'il n'y a plus d'argent et il n'y a plus rien. Alors je crois qu'il faut commencer à se bouger. Quoi? Je mange le pain du voisin maintenant? Voilà, il faut que je fasse Ishtadlut. Il faut que je fasse Ishtadlut. Il faut que je fasse maintenant une petite comédie. Allez travailler, quoi, pour amener un peu d'argent.
Il aurait pu travailler plus sur son bitaphone.
Hein?
Il aurait pu travailler plus sur son bitaphone.
Ici, il a vu qu'il a, il fait lui, là, il travaille tout, mais il voit que de coup maintenant il y a zéro. Lui, là, il y a un bitaphone. Il y aura. Il y aura la maison. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'y a pas. On est arrivé maintenant à un point où on a dû emprunter. Et lui, c'était pas question d'emprunter.
S'il n'y a pas, c'est qu'il avait pêché dans son bitaphone.
Il y a quelque chose, je ne sais pas. Peut-être.
Ou alors,
peut-être.
C'est un bitaphone complet. Peut-être. S'il n'y a pas, alors il ne doit pas y avoir.
Regarde, d'abord, il y a un piège. Hein. Je m'ai expliqué dernièrement à mes élèves ici. Il y a un chef d'orchestre, c'est le bon Dieu. Et nous, on ne doit pas aller commencer à lui dire comment lire sa partition. Parce que non, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai du bitaphone. Donc tu dois jouer comme ça. Lui veut jouer autrement. C'est lui le chef d'orchestre. Et même si tu as un super bitaron, des fois tu te dis, ok, maintenant mon vieux, wallo. Et pourtant j'ai un bitaron. C'est pas pour ça qu'il avait un mauvais bitaron, qu'il a pêché en bitaron, et peut-être, mais peut-être pas. Comment on sait? C'est pas nous qu'on joue la partition.
C'est un test?
Je ne sais pas. Ah ouais. C'est le bon Dieu. Des fois il veut que tu ailles faire acheter de l'autre.
Machemak, je faisais pas bien le bitaron avant alors.
Justement pas machemak, je t'ai expliqué. Il se peut, machin, que tu avais un mauvais bitaron, et pour ça maintenant tu vas faire Ishtadlut. Il se peut que tu avais un très bon bitaron, et malgré tout, le chef d'orchestre, il joue maintenant une autre partition, qui n'est pas celle que tu crois qu'il est en train de faire. Tu comprends ça? Il faut bien comprendre. Ça concerne tous les problèmes bitaron que nous avons. Ouais, ça devrait aller comme ça. Non, non. Pardon?
Ishtadlut, ça ne lui sert pas, Dieu. Alors que bitaron, c'est pas il lui sert, mais c'est plus ce qu'il cherche.
Mais néanmoins, Dieu a dit maintenant qu'il y a ici ELM. Il se cache. Donc bien que tu joues toutes les règles du bitaron à fond la caisse, des fois il dit ok, tant pis. Quand Rabbi Akiva, il est mort, les anges ont dit, je ne comprends pas Dieu, Zetora Vezesrara. Les anges, donc ils connaissent bien la partition, un type comme Rabbi Akiva, il ne mérite pas une mort pareille. Il leur dit, c'est comme ça que j'ai décidé. C'est lui le boss. Ça c'est le plus grand bitaron. Parce que quand on marche avec Dieu, il y a un bitaron et tout fonctionne très bien, la Shoah. D'accord, tout va très bien, on a des super tzadikim, ou pas, les plus grands d'Atora, les tzadikim, ils écopent, qu'est-ce qui se passe, les bébés. On va dire, Dieu, tu divagues. Il y a une raison, mais quand tu ne la connais pas, il n'y a aucune raison, c'est contraire à la logique de la Torah.
En général, on dit que quand on a une épreuve, c'est justement pour nous faire une test, pour savoir si on résiste à cette épreuve, et si on...
Alors, des fois, l'épreuve, la vraie épreuve de Emouna, elle est quand c'est illogique ce qui m'arrive. D'après les critères du bon Dieu. D'accord? Moi qui suis le sadique, il y avait deux trucs, je ne sais pas, il y a un rachat, un sadique, voilà, et deux postulent pour la même chose, je ne sais pas quoi. Le rachat est reçu, avec tout ce que ça mène, le sadique il n'est pas reçu. Eh Dieu, qu'est-ce que je comprends plus? C'est fini, je rase barbare, je pars à Acapulco. Là, elle est là, Emouna. Alors pour finir l'histoire, parce qu'elle est sympa, le rabbi Yosef Haïm Zonenfeld sort de chez lui, il met son chapeau, il met son manteau, il sort. Le voisin met son chapeau sur son manteau, allez voir c'est quoi les chadouks qu'il va faire. Il va ouvrir une épicerie, il va jouer à la bourse, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il voit qu'il monte comme ça la rue, ça, la ville comme ça, tac, il tourne. Le il monte au citron, il tourne, il a juste le temps de voir que le rave se baisse par terre, hop, il ramasse une bourse pleine de pièces et rentre à la maison. Voilà, il a fait jeter de l'autre. C'est Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, d'accord. Pour qu'il comprenne un peu le niveau de ce monsieur-là. Un jour, on l'a montré une photo de lui-même. Alors, vous savez qui c'est? Il dit non. Mais il a l'air d'être un type Yerech Shamay. Tu comprends?
C'était jamais
vu dans la gare? Jamais. Je crois la roue interdit. Je crois la roue interdit parce que c'est une coutume féminine. Quand j'étais jeune, il y a 30 ans, je posais la question, on m'a dit, ceux qui viennent de l'étranger peuvent, ceux qui en Israël, non. Aujourd'hui, qui ne fait pas ça, d'accord? Une semaine pas dans la glace, tu fais une dépression nerveuse. D'accord? Est-ce que je suis beau ou pas? D'accord? Un jour, il s'est cassé le pied. Il a dit, je sais pourquoi. Parce que je suis monté sur le trottoir, je trébuchais, je suis tombé. Parce que je suis monté sur le trottoir, j'ai lu le titre du journal. Comment mes yeux regardent un texte tamé. Le journal, c'est tamé. Tu comprends ou tu comprends pas? Voilà. C'est un autre niveau, c'est une autre sphère. Baba Meir, pour dire une histoire qui ressemble à ça au niveau des yeux, Baba Meir, on lui a demandé, à l'époque, il n'y avait que des journaux non religieux ici, terribles, en Israël. Il dit, oh non, on voit tous les trucs des horreurs, les plus horribles qu'il puisse y avoir. Donc, il y a des religieux qui ont décidé de faire un journal religieux. Il y a peut-être Neyman ou Amodia, ça existe, d'accord. Et ils voulaient une approbation de Baba Meir. Ça va le voir. Et ils ont fait pression, il a dit non, pression, non, je ne savais pas quoi. Son chaval, je lui ai dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de si grave, c'est un truc religieux. Il dit, quand j'ai eu 13 ans, j'ai pris sur moi que jamais mes yeux ne regardaient d'autres lettres que les lettres de la Torah. Comment je peux donner une autorisation à un truc pareil? C'est pas notre niveau. Baba Meir, c'est un homme qui voyait tout. C'est le père de Rabbi David de Naharia. Rabbi David Abou Khatsera, son père, c'est Baba Meir, qui est un homme, Rabbi Tzion Baba Shaul, qui était un des plus grands de la génération, passée, m'a dit, Baba Meir devait être le Mashiach. Il connaissait toute la Torah. Toute la Torah, il connaissait. C'est quelque chose inimaginable. Et tout ça en caché. Quelqu'un m'a raconté dernièrement que, je crois que c'est mon fils qui m'a raconté, que son Chavruta, ou le Chavruta son Chavruta, son père est menuisier. C'est un truc que j'ai vu dans le journal, après lui m'a raconté en live, d'accord, en vrai. Ils sont menuisés à Et il a une menuiserie à Givat Shaul. Et un jour, on lui a demandé de faire Baba Meir à Ashdod. Ils ont demandé qu'il voulait refaire sa bibliothèque. Alors, ils sont rentrés dans la chambre, tout ça, etc. Et puis il leur demandait, je vous demande de rien bouger, de pas bouger les livres, etc. Bon, après une heure, il vient voir qu'est-ce qui se passe. Et rien s'est fait. Pourquoi? Écoute, on est obligé de bouger la bibliothèque. On peut pas. Elle est extrêmement lourde. Alors on est obligé d'enlever les livres. Non, pas besoin. Il vient, il chuchote quelques mots à la bibliothèque, puis comme ça, après, avec les deux doigts, comme ça. Les gens ne pouvaient pas bouger cette bibliothèque, elles pèsent des tonnes, avec deux doigts, comme ça. Ce n'est pas des gens de la même cour que nous, tu comprends? Voilà. Donc, pour te dire qu'il y a des notions de bitachon bachem, ce n'est pas pour nous. Nous, à notre niveau, on doit jouer la comédie. Mais c'est qu'une comédie. Et là est le piège. Là, le piège, on doit être un bon comédien et comprendre que c'est qu'une comédie. Donc il faut qu'il y ait des gens qui aient à l'armée, il faut une armée, c'est clair. Ah, si on était dans une configuration idéale de Torah, où tout un Israël est pratiquant, où depuis qu'au lieu d'aller apprendre les bêtises qu'ils apprenaient à l'école pour le bac, t'as fait le bac toi? T'as appris beaucoup de choses? Qu'est-ce qui te reste maintenant dans la tête de ce que t'as appris?
Mécanique, choses comme ça.
Pas grand chose. T'as fait un peu d'histoire?
Oui.
Marignan?
1515.
1515, bravo, ça date que moi je me souviens, d'accord?
Hein? C'était après, depuis après.
La production de charbon pour la Belgique en 1956? Pour le bac, on apprend beaucoup de bêtises. Si on était dans une configuration où on apprend beaucoup de choses intelligentes, à être un homme, à maîtriser ses pulsions, à ne pas être en colère, à ne pas être jaloux, à connaître Dieu, à prier, des choses vraiment qui sont vraiment constructives. Et Am Israël pratiquait, etc. Alors c'est certain, d'abord il n'y aura pas besoin d'armée. Tous nos ennemis partiront en courant, ça c'est le problème. Mais même en cas où, hypothétique, on aura besoin d'armée, alors on aura fait comme à l'époque. Alors il y aura moitié-moitié, on irait enfin moitié Yeshiva, moitié... Tout à fait d'accord, aucun problème. Aujourd'hui c'est quoi? 80% des juifs sont en voie d'assimilation. Le 20% qui n'est pas en voie d'assimilation, 80% de ce 20%, il est Mechalel Shabbat. Parce que d'après la Torah, il a un statut de non-juif. Mechalel Shabbat de Pharisien. 20% de 20%, donc ça fait 4% de la totale qui est Shomer Shabbat, c'est très light. Le 80% de ce 4%, donc on va dire 3% de la totale, c'est très light. Le 1% qui est vraiment orthodoxe, 80% c'est des tordus. Lachonara, jaloux, tordu, interne, tout ce que tu veux, d'accord? Alors combien il te reste? 0,3%? Sur ça on tient. Sur ça on tient. Une configuration pareille, on va pas dire aux 0,3%, écoutez, faites un moitié, moitié, moitié Torah, moitié... Voilà. Eux, ceux qui agissent, d'accord? C'est les derniers biens. Alors, le reste, qui n'a pas le choix d'aller à l'armée ou à l'yeshiva, c'est forcément l'armée. Dans leur tête, ça n'existe pas l'hypothèse yeshiva, l'option yeshiva, l'alternative yeshiva. Une seule alternative qui est l'armée, alors qu'il y a l'armée, ça va. Mais si on était dans une configuration qui était idéale, ben on serait en... On n'aurait besoin de rien, c'est la vérité. Comme on le dit, jeudi dans la prière, comme on s'est marqué, donc jeudi dans la prière, on dit le shir shelium, le... Shir, c'est quoi shir? Cantique, en bon français. Cantique du jeudi, c'est marqué « Si seulement Israël m'entendait, kimat oive machnia. » Tout leur ennemi, et ma main, qui actuellement est en train pour elle bat Israël, elle retomberait sur eux. C'est facile. J'ai raconté hier les miracles de la guerre. Encore beaucoup, beaucoup. Et comment on est, quelle situation lamentable on est au niveau spirituel. Bon, il y a la tchouva, ça monte. Imagine qu'il y ait 10 fois plus de tchouva. Mais on serait... On les casserait tous en petits morceaux.
Comment est-ce arrivé dans la maison de sa vie? C'est la tchouva générale, non?
Tchouva générale, oui.
Comment on peut arriver à ça?
Elle y a déjà, la tchouva générale. Pardon? Ta question. Pour que ma chère vienne, on a besoin d'une tchouva générale. Je réponds. Nous sommes en situation de tchouva générale aujourd'hui. C'est-à-dire générale. Il y a un mouvement. Plus ou moins général de tchouva. Il y a un ou deux mois, dans le, je ne sais pas quelle est la source, mais quelle source sûre, il semblerait, dans le journal, on m'a dit, j'ai dansé de joie dans le couloir ici, on m'a dit qu'ils ont fait, donc en Israël, ils ont fait un sondage. 63% des Israéliens étudient la Torah. L'autre, Rav Chazan, me raconte ce matin, il t'a raconté la Torah aujourd'hui. Il raconte ce matin, il revient de France de l'avion. Il voit un couple israélien, marié ou pas marié, la fille à moitié pas habillée, et puis c'est un vol de nuit, ils s'embrassent, enfin, tout la... en super public, quoi. L'archouma, même des non-religieux, auraient dû halt, d'accord. Puis tout d'un coup, ils se retournent vers le Rav Chazan, vous n'aurez pas une Bible? Alors lui, il rigole, tu fais une blague. Non, je suis sérieux. Bon, il a donné. Il mène Kippa, sa copine met un truc comme ça, et pendant trois quarts d'heure, ils ont eu par parachat de Shoftim. Ça veut dire quoi? Il y a un mouvement général de gens qui reviennent. J'étais dans l'avion, moi, il y a 10 ans, j'étais dans l'avion, je reviens avec Alitalia. Et à côté de moi, deux Israéliens tête rasée, et devant eux, encore devant moi, encore trois comme ça. Moi, j'en sais mon truc cachère, eux, pas cachère, viande, machin, ils mangent taref, qu'est-ce que j'en sais, les pirogues, tout ce qu'on peut imaginer, et moi, j'ai pauvre un Israël. Tête rasée, il mange taref, tout ça. Il y a une tête rasée qui vient parler au type tête rasée devant moi. Puis il dit, tu sais, j'ai commencé à honorer un peu plus mes parents. Là, c'est bien, c'est une mitzvah. Il me dit, hein, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit à moi. Je lui dis, bien sûr, c'est une mitzvah, fantastique. Et il me dit, mais c'est la Tesharim. Attendez, c'est bien comme ça. Il a un punk, un truc terrible. Moi, qu'est-ce que le bouquin, je disais? C'était un de mes rêves dans ma vie, c'est de faire traduire ce bouquin-là. Quand vous verrez les réponses, ça existe en anglais aussi, sur le Rav Yekutel Yehuda Halberstam, le Admor de Tzantz Kloisenburg. Kiratzantz, connaît Kiratzantz à Netanya? C'est lui, après la guerre, il a créé ce quartier-là. C'est un des grands tzadikim de la génération. Ce type-là, il est décédé aujourd'hui. À la Shoah, il avait 11 enfants, tous sont morts dans la Shoah. Il a fait toute la Shoah dans les camps. Il n'a jamais mangé non cachère. À un moment, il devenait musulman. C'est quoi musulman? Ceux qui savent, c'est un terme utilisé dans le jargon des camps. Quand quelqu'un commence au niveau des fesses à maigrir tellement, c'est le point de non-retour. On sait que là, il a trop maigri, dans 2-3 semaines, il est mort. Il a entendu que les gens autour commençaient à dire, le Admor, il est musulman, c'est fini. Hein? Je sais pas, c'est un terme, aucun rapport. il s'est dit, moi je suis mekel aujourd'hui de pas de boire du lait non chameau. Je sais pas s'il y a du lait dans les camps, je pense pas. Mais si peut-être c'est arrivé qu'il y ait un petit morceau de beurre ou de fromage ou machin, normalement il faut que ce soit, chaque lait doit être trait devant un juif. De peur qu'un goy ait mêlé du lait de chamel ou d'anès ou quelque chose de taref, d'accord. Maintenant, c'est comme ça, mais bon, certains disent, si dans un pays une législation qui interdit de toute façon de mettre dans le lait d'autres ajouts que du lait de vache, etc., il y en a qui ont voulu autoriser. Il a dit, puis quoi, nefèche dans les camps, machin, tout ça, il a autorisé, et lui-même il s'est aussi autorisé pour survivre. Il s'est dit, si maintenant je suis décidé à mourir, dans 2-3 semaines je suis mort, pourquoi je continue maintenant à souiller mes lèvres, ma bouche, mon corps avec du lait, un truc qui n'est pas tout à fait caché comme il faut. Il a pris sur la khumra de ne pas boire du lait chamour, du lait non chamour. Bon, 2 semaines passent, il survit. 3 semaines passent, 1 mois, 2 mois, il voit qu'il survit. Il dit, bah, il a continué comme ça jusqu'à la fin de la guerre. Il n'a jamais fait Chilul Shabbat de Horaïta. Dans les camps, messieurs. Tu ne travailles pas, tu te fais esquinter tout de suite. C'est extraordinaire, extraordinaire. Comme il résistait. Il y a un nazi a pris un morceau de pain comme ça, tchac, il l'a jeté. Quelqu'un dans une rivière où il y a des poissons à la mer, c'est pas un morceau de pain comme ça, vous avez vu ce que ça fait, tous les poissons tchic, sautent dessus. Il a jeté comme ça, tous les soldats, tous les détenus dans les camps sautent comme un match de rugby, tchac, sur le pain. Et lui, là de mort, il rentre, paf, il rentre dedans, tchac, et hop, il prend un morceau de pain, il court, et donne à une vieille dame qui était malade. Qui fait ça dans les camps? Qui fait ça dans les camps? Que tu survis, que... Dans un camp, dans une histoire, j'ai vu dans les camps, il y a un père qui est mort parce qu'il avait un morceau de pain. Et son fils, durant la nuit, qui dormait près de lui, lui a piqué le morceau de pain. Le père est mort de chagrin. Que son fils lui a pris le morceau de pain. Pour vous dire qu'il n'y avait pas d'herbe à Auschwitz. C'était les gens broutaient l'herbe. L'Allemand se bat, gagne, prend un morceau de pain pour aller donner ça à une vieille dame qui est en train de mourir. Là, c'est un livre extraordinaire. Je disais ça à côté des jeux. Eux, ils bouffent comme ça maintenant du taref. Et je vois le lave. Je dis, tiens, au début du bouquin, il n'y a pas de. Quand il était jeune, bon, c'est un peu. Quand il rentre à Auschwitz, d'accord, tac, tiens, lis ça. Je dis, mais comme ça, il a commencé à lire. 2 heures, il n'a pas quitté le livre. Moi, j'ai dit, c'est bon, c'est. Enfin, il a voulu me le rendre. Je dis, non, tiens, garde-le. Oh, non, aujourd'hui, je pense qu'il doit avec une barbe. C'est un bouquin tellement extraordinaire. Bon, pour raconter, tout ça pour raconter que. Ta question à Tchouva générale. Amitrel fait Tchouva. Maintenant, c'est un mouvement général, ça veut dire quoi? C'est, il y a plus d'intérêt. Mon père est venu du Liban en 51, il avait 14 ans. Ils l'ont mis au kibbutz Shomer HaTzair, socialiste anti-religieux. D'accord? Eh bien, sa mère adoptive, parce que dans chaque kibbutz, il y a une mère adoptive, eh bien, elle, ça fait quelques années, elle a 70 ans, 80, je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, elle donne des cours de Tanakh, dans un truc qui était socialiste anti-religieux. Il y a, c'est pas un truc, c'est pas Froum, c'est socialiste, ça reste kibbutz, mais... Il y a un retour, les gens s'intéressent. Aujourd'hui, il y a une télévision Idabro, télévision religieuse en Israël. C'est en câble, un truc privé, mais ils ont beaucoup d'entrées, les gens s'intéressent. Maintenant, dans chaque famille juive, il y a quelqu'un qui est en voie d'assimilation. Ça, c'est comme ça depuis un siècle. Pour le monde Sfarad, depuis 50 ans. Mais aujourd'hui, il y a une nouveauté, que dans chaque famille, en gros, il y a un Batchoua. Donc, tu peux pas dire qu'il y a un mouvement, c'est en train de revenir. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, le mouvement de Tchouva, il est là. Maintenant, est-ce qu'il faut que tout le monde fasse Tchouva? C'est pas clair. C'est marqué que Machia revient, Bédor, chez Koulo. La génération est entièrement fautive, entièrement méritante. Alors, qui dit, c'est marqué Roubo qui Koulo. La majorité, c'est comme Koulo. Roubo, majorité, équivaut à Koulo, à entier. C'est un avis qui peut être. Deuxièmement, il y a la souffrance. Comme Israël souffre, quelque part, c'est un grand mérite pour nous. Troisièmement, c'est pas forcément que Dieu veut que tout le monde voie Mashiach, c'est qu'une partie qui va être liquidée. Qui est liquidée entre nous? Quelqu'un qui envoie, qui vit avec sa Goya, d'accord, je sais pas moi dans quel bled, Bergerac, d'accord? D'accord? Eh ben, il n'est pas dans le coup de toute façon. Il est liquidé de facto, c'est pas comment ça se passera avec lui, mais c'est vrai que les 4/5 des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Et là, on peut dire 4/5 des Juifs aujourd'hui sont avec la Goya dans le monde. Je ne sais pas comment ça va être. Où est la barre? Comment Dieu va juger? Dieu va juger. Il y aura un moment où... Et où est la barre? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour mettre la barre très bas. Et pour que les gens prennent position. surtout en France, hein, il faut comprendre, surtout en France, mais dans le monde, dans le monde juif, jusqu'à 20-30 ans, il y avait le flou. Beaucoup de juifs se plaignent, français qui viennent en Israël, se plaignent qu'en Israël, c'est extrêmement compartimenté. T'as un non-religieux, t'as anti-religieux, t'as non-religieux, t'as sympathisant, t'as misro, t'as orthodoxe light, t'as orthodoxe noir, t'as chassid, t'as machin. Mais chacun c'est ça et rien d'autre. Alors qu'en France, dès qu'on entre juifs, on est copains. En France, t'as l'égoïme en face, donc dès qu'on est juif, on est copains. T'es religieux, tu es religieux, on est copains, on est du même bord. Mais ici, qu'on est rien contre juifs, alors tout entre, qu'on est en, que entre juifs, on devient contre juifs, d'accord. On est chacun, son clan, machin, moi je suis moi, c'est la guerre presque à août. Chacun avec son truc. Attends, il y a un moment où tu dois décider où tu es. T'es là ou là. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il nous met dans une situation où tu es obligé de faire un choix. Par exemple, on te dit, voilà, Gay Pride International à Jérusalem. Tu peux pas rester dans le flou, tu dois dire oui ou non. Un dit, mais c'est complètement fou. Un dit, mais pourquoi pas? On a un pays ouvert, il y a une démocratie, il y a toutes les tendances, chacun a droit à sa liberté d'expression. Donc Dieu va faire et fait des situations. Voilà. Est-ce que maintenant, voilà, il y a la conversion libérale? Pour ou contre? Tu peux pas ne pas te positionner. En fonction de ton positionnement, donc il y a ici quelque part une sélection. C'est ça la sélection, elle a lieu. Comment Dieu va juger? Comment ça sera? Qui passera? Qui passera pas? Par le mur de qui? De quoi? Comment? Personne ne sait comment ça va être, ce que ça va être. Donc c'était pour Israël de l'août. Je pourrais rajouter quelque chose.
Si on ne fait pas cette comédie, on a quand même ce qu'on est censé avoir?
Non.
Il faut faire la comédie.
On doit faire la comédie. En fait, la question qu'on entende bien, si quelqu'un ne joue pas la comédie, est-ce qu'il reçoit ce qu'il est censé recevoir? Absolument pas.
Et s'il fait plus que la comédie?
C'est plus, alors, il manque de bitachon. Et bon, alors, c'est déjà un manque de bitachon en soi. Et s'il rentre en panique, parce que alors Dieu lui dit, tu comptes pas sur moi. Tu comptes pas sur moi. Tu comptes sur toi. Débrouille-toi.
Comment on peut savoir le rôle exact de la comédie qu'il faut jouer?
Alors, très bien. À quel point il faut jouer? La réponse est normal. Normal.
Ouais, il
n'y
a pas normal.
S'il y a un normal. Il y a normal, quelqu'un il a une grippe, d'accord? Et fier, il va voir le médecin, il lui dit antibiotique, il est pour terminer. Business, ok, tu travailles, tu
35
tu.
Heures.
Hein?
35 heures.
Ouais, ce qui se fait dans un marché normal.
Hein?
Pardon?
Parce que c'est la moyenne, c'est parce que c'est normal, chacun son monde.
Ah, tu dis combien d'argent?
Non, il parle dans la qualité de vie, dans la vie de tous les jours, ce qu'il faut faire exactement.
Quel est mon standard? C'est une autre question. C'est pas combien je dois travailler, combien je dois faire le job de comédie pour que Dieu m'envoie la parnassa. Je lui dis combien je dois viser, quel parnassa je dois viser. D'accord? Alors la réponse est très dure.
D'accord.
Non, la Rafet Raïm, non, elle est dure.
Je vois pas la réponse en termes d'équipe.
Si, en termes d'équipe. Voilà, je te donne maintenant un argument. Je te donne exactement maintenant. Le Rafet Raïm dit comme ça, mais c'est terrible ce qu'il dit. Il dit que si on te dit maintenant, voilà, il y a ici une famille de Ben Torah, un type qui étudie la Torah. Famille de tant et tant d'enfants. Toi, tu as de l'argent. D'accord? Tu vas donner maintenant, tu vas donner une partie de Tzedaka. Maintenant, te dit, cette famille, c'est toi qui t'en occupes. Toi, tu dois juger toi-même combien cette famille a besoin. T'as réfléchi. Ce que tu as fixé pour eux, c'est valable pour toi. Ok. Si toi, t'avais 11, c'est pas ça. Tu as quoi? Vacances, une fois par an. Est-ce que je paye maintenant des billets d'avion une fois par année pour aller voir la famille en France? Est-ce que je fais des vacances un mois au bord de la plage, à l'hôtel? Combien d'étoiles? La viande qu'on fait par semaine? Le machin, l'air conditionné, le chauffage?
On peut traiter de 20 audits à 100 euros par mois, c'est sûr.
Aussi.
On sait pas quoi faire.
Donc entre les deux, toi tu vas juger d'après tes critères à toi. Tu prends quelqu'un qui vivait il y a un siècle. Il dira, le téléphone, c'est une chose qui est absolument inutile. Alors, Bession, il a été posé qu'il y a 20 ans. Quelqu'un, ça fait partie du strict minimum, un téléphone. C'est une nouveauté. Qui m'a dit que je devais avoir un téléphone? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre sans portable? Ça n'existe pas, un truc pareil. Et ça coûte de l'argent, un portable. Ça coûte de l'argent. Ça rentre dans des... Alors, maintenant, toi, tu vas dire, mais pour que je paye son portable, c'est un type... Moi, maintenant, il vit... C'est moi qui lui paye... Pourquoi un portable? Tu peux dire comme ça, non, portable, il a besoin d'un portable. C'est toi, d'après tes critères, qui a fixé combien lui il a besoin. Bon, tu vas être objectif.
On demande à chacun de se juger ce qu'il veut. Tout le monde a essayé de viser le luxe. cette personne a essayé de...
Non, mais tu dois payer. Toi, tu dois payer maintenant, débourser pour donner à quelqu'un d'autre.
Ah, d'accord.
Là, t'as compris. Ah, tu regardes maintenant au nom. C'est là le piège. C'est exactement là que tu deviens tout à fait. Je dis que c'est dur parce que c'est pas...
Vous trouvez quelqu'un qui a le même niveau que toi alors?
Non, non.
C'est quelqu'un qui est célibataire.
Ouais, non.
C'est ce que toi tu donnes.
Mais dans le cas, il a été célibataire.
Ouais, célibataire.
De quantifier par rapport à une famille, il y a 11 ans.
D'accord, prends célibataire, ça va, mais voilà. Voilà, ici, voilà, t'es un baron. Toi, t'as besoin d'argent, ici, t'as besoin d'argent de poche. J'allais travailler pour un peu d'argent de poche. Combien il m'en faut d'argent de poche? Je vais voir combien un autre barreau, si moi je devais mettre de l'argent, combien je dois lui donner? Alors là, il a besoin d'une savonnette de temps en temps, une pizza, parce que là, je ne mange pas très bien, il a besoin, qu'est-ce que j'en sais, moi? D'accord, ouais, tout ce qu'il lui faut, machin, tout ça, tu sais, puis de temps en temps, aller un voyage deux fois par année, aller en France. Et c'est beaucoup de, allez, un. Ben, ce que tu fais comme critère, c'est des critères valables pour toi aussi.
Mais c'est vraiment le plus important, c'est qu'il mange quand on donne ça. En France, ça devient le plus important qu'on dit, c'est au moins
qu'il monte. Au moins, loger. Ouais, loger, au moins, mais c'est tout? C'est tout?
Non,
des habits? Des habits? Des habits? Il leur faut des habits? Il leur faut des habits? Madame, elle a besoin d'habits? Quels habits de madame? Ouais. Madame ne peut pas avoir le même habit tous les jours comme un homme, d'accord? Un homme, il a deux costumes, un shabbat, un chol. Il y a de la chance, il y a trois costumes. Chez nous, c'est comme ça, d'accord? Quand le costume, voilà, celui-là que je vois, pendant Ben Azmanim, j'ai pris un vieux costume que j'ose pas mettre ici à l'Eshiva. Pendant deux jours, on est parti en vacances, j'ai mis le vieux costume pour qu'en attendant, on puisse donner le costume de Roll au pressing. Et j'en ai un Shabbat. Et un Mashiach, j'ai acheté aussi un spécial maintenant. Un Mashiach, il est dans sa fermée. Ouais. Hein?
On doit l'avoir?
Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Non, il viendra vite. Avant qu'on grossisse.
Moi, je vais faire en sorte. Lui, il mange. L'autre, peut-être qu'il va donner un autre.
Toi, tu dois fixer. Non, attends, tous ses besoins reviennent à toi. C'est toi qui dois fixer tous ses besoins. Comment tu donnes? Alors, tu vas dire, est-ce que je donne un... Est-ce qu'il doit acheter maintenant un bijou à sa femme au moins une fois par année? À ton compte, l'agent de Tatsdaka. Si. Mais. C'est pas pareil ce que je dis. Alors le vrai, on devient radin. Donc le Rav Etzramit, tu veux maintenant un critère vrai, combien tu as besoin, toi? Ce que tu fixes pour un autre, c'est valable pour toi aussi. Ce que tu fixes pour un autre, c'est valable pour toi aussi. Et c'est le vrai critère. Je vous dis que c'est un critère qui est dur, c'est pas facile.
Il faut aimer gâter les gens pour que Dieu nous gâte.
Ouais, il ne faut pas aimer gâter les gens. Il faut que nous comprenions que c'est ce que nous croyons être nécessaire pour quelqu'un. Pour moi, je peux comprendre que c'est nécessaire qu'une femme ait, on va dire, je sais pas moi, deux, trois par année, un nouvel habit. D'accord? Sans ça, elle va déprimer, par exemple. D'accord? C'est tout à fait aléatoire ce que je dis. D'accord? Un couple français ici, les Français moyens religieux froum, ils vont au restaurant. D'accord? C'est une sorte de maladie française, d'accord? Au restaurant. D'accord? Ok. Manger en public. D'accord? Alors, il faut de temps en temps combien? Un, c'est une fois par semaine, un, c'est une fois par six mois, une fois, c'est une fois par 10 ans. D'accord? Toi, d'après tes critères de vie que tu comprends ce qui est le minimum pour être normalement bien, tu vas dire, il lui faut, par exemple, tu diras une fois par mois. Ce que tu dis pour lui, et voilà pour toi aussi. Et si tu fais plus d'argent, maintenant, ça fait partie du superflu. Bah, ou Radonai, mais...